Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sébastien, bonjour.
Bonjour Yves.
Et Jeannin, bonjour.
Oui, bonjour.
Tous les deux, vous êtes ici pour nous annoncer l'arrivée de la caravane qui vient de Saint-Nazaire et qui va arriver à Saillans ce vendredi 9, demain donc, et qui sera là aussi pour le samedi 10.
Voilà.
Alors, cet accueil de caravane va permettre d'introduire quoi pour ce week-end ?
Ben, disons que pour faire un rapide topo sur la présence de la caravane de Saint-Nazaire à Saillans, Saint-Nazaire, c'est la deuxième ville à avoir organisé une assemblée des assemblées de gilets jaunes au niveau national, après Commercy dans la Meuse. Et ils ont décidé, à l'occasion du G7, de lancer une caravane routière qui est un moment de rencontre, de rassemblement autour de cet objectif du G7 à Biarritz. Et en fait, ils ont choisi Saillans parce que, évidemment, comme tout le monde, ils sont au courant que Saillans a élu une équipe municipale sur un mode un peu autogéré, avec la porte ouverte en tout cas pour les citoyens de Saillans, voilà, participatif pour les Saillansons qu'ils désirent. Je pense que c'est une des choses qui a motivé leur venue à Saillans, et aussi la présence autour de Saillans d'un groupe qui édite des affiches et qui s'était fait remarquer dans les diverses manifestations et assemblées gilets jaunes pour ces beaux choix d'affiches. Donc je pense qu'il y a les deux. Ouais.
Et de là, donc, c'est constitué une caravane, voilà, qui regroupe.
Alors on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas combien de personnes ils vont regrouper. Ce qui est sûr, c'est que le groupe de Saillans a décidé d'organiser. Deux jours de rencontres, de débats, de spectacles autour de leur venue, histoire de ne simplement pas les accueillir tout seuls comme de ronde-flanc sur le rond-point. Donc à l'occasion de ces deux journées, vendredi 9 et samedi 10, il va y avoir dès vendredi des interventions d'un professeur, alors excusez-moi j'ai oublié son nom, de Sciences Po Greux, et d'une professeure des universités de Groningen aux Pays-Bas, autour du RIC et des notions de démocratie. Donc ça, c'est un peu le mode, mode amphi, quoi.
Alors avant de continuer, on pourrait peut-être définir ce qu'est le groupe de Saillans.
Alors le groupe de Saillans, c'est environ entre 10 et 15 personnes encore aujourd'hui, plus ou moins actifs pour certains, qui ont... très tardivement par rapport au début des événements, au début de la prise des ronds-points en octobre et puis la première manif le 17 novembre, l'acte 1. Donc très tardivement par rapport à ces échéances, ils ont pris leur rond-point aussi, l'ont décoré et ont organisé pas mal d'activités, de projections. Ce qui va d'ailleurs encore se faire, il y aura des projos samedi. Notamment un film, et vendredi aussi peut-être, ouais, un film notamment qui Il suffit d'un gilet, qui est une deuxième mouture d'une première version qu'on avait eu l'occasion de voir d'ailleurs sur le rond-point de Saillans. Les profs interviendront, eux, à la salle Saint-Géraud, dans le haut de Saillans.
Mais toute la programmation, je crois qu'elle est dispo sur le bip sonore, il me semble. Et donc, du coup, le vendredi, il y a aussi une projection d'un film qui n'a pas du tout été réalisé par le collectif de Saint-Nazaire, qui est disponible sur YouTube. Et j'ai plus le nom en tête, du coup, mais mais bon. Et voilà, il y a cette projection-là. Le samedi, il y a aussi il y a un concert de Didier Super. La projection des suffira d'un gilet. Et il y a les meutes aussi, oui, il y a les meutes qui viennent. La journée, il y a aussi des ateliers avec la création d'un film, du coup, avec l'écriture d'un scénario et le tournage d'un film autour des Gilets jaunes, et un atelier plutôt organisé par Showmuz Go On, le collectif d'affiches, du coup, sur la réalisation de banderoles, d'affiches et tout ça. Voilà.
Cet atelier de tournage, de constitution d'un... Ça serait quoi, un témoignage de ce week-end qui serait constitué, ou alors il y aurait simplement un travail de fiction ?
Alors je pense que ça va se faire, ça va se décider avec les participants en fait. C'est un atelier ouvert aux personnes présentes, du coup, guidé par le collectif qui a tourné « Il suffira d'un gilet » à Saint-Nazaire, du coup. Je pense que ils ont pas forcément prévu quelque chose, que ça va se faire en collaboration avec les gens, du coup.
On revient sur le sujet donc de ce week-end qui s'intitule, vous l'avez intitulé, et maintenant on fait quoi ? Et ça se passera au rond-point de Saillant et alentour. Alors la question que vous posez, vous en avez déjà un peu vous-même une réponse ?
Ah, très 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 bonne question. Là, mon point de vue sur la dynamique du mouvement, c'est que c'était un mouvement de masse. Donc il n'y avait pas vraiment de questions à se poser. Hein. La masse produit sa propre dynamique qui n'appartient à personne. Depuis, les choses ont changé. Il y a moins de monde, beaucoup moins de monde sur les ronds-points et dans les rues. Je pense qu'il y a une mutation du mouvement qui s'est faite. Ça ne veut pas dire que les Gilets jaunes ou quelque chose d'autre, de similaire, ne reprendra pas la rue, et notamment en septembre, peut-être en collaboration, en convergence avec les syndicats, parce que je pense qu'il y a pas mal de sujets qui sont sur la table pour la rentrée de septembre. Et donc maintenant, on fait quoi ? En ce qui me concerne, je continue à essayer de tendre les antennes au maximum, essayer de sentir la température du corps social et puis j'envisage d'essayer de diffuser de l'info sur quelques fondamentaux autour de la notion d'État, la notion de bien commun, parce que toutes ces choses ne sont pas claires. Beaucoup de Gilets jaunes sont non seulement des primo-manifestants, mais beaucoup d'entre eux avaient une approche du politique qui était vraiment rudimentaire. Donc c'est aussi pour ça que les revendications partaient dans tous les sens, que... En même temps, moi, ça me plaisait parce que je trouvais que ça avait un côté maximaliste. Au bout de l'addition, tu pouvais finir par dire « qu'est-ce que vous voulez ? On veut tout. On veut tout. » Et là, il y avait quelque chose qui était intéressant, qui était en train de se jouer. Aujourd'hui, on fait quoi ? Entre autres, on essaye de se rencontrer, de tisser du lien, de tisser des réseaux de solidarité, de pêcher chez les autres pour essayer de comprendre quelles expériences ils ont mis en œuvre, avec quel bénéfice. Alors il y a beaucoup de Gilets jaunes ont basculé vers des formes de solidarité active qui vont de la maraude à l'ouverture de squats pour sans-papiers, à des garages autogérés et à prix libre. Ils ont mis en place énormément d'expériences plutôt locales qui visent à reprendre en main en fait leur vie et aussi une forme de sécurité, qu'elle soit alimentaire ou de santé, puisque l'État ne joue plus vraiment son rôle dans ce domaine. On voit un petit peu, à une échelle plus réduite, ce qui s'est produit et ce qui se produit encore dans le quartier Texarkeia en Grèce, à Athènes, où de quantités d'initiatives de participation, d'autogestion se mettent en place parce que l'État est complètement délabré, que ses missions, il les abandonne, qu'il n'a plus que la répression et l'envoi des polices comme seule réponse.
D'ailleurs, il y a environ un mois, j'avais vu une annonce comme quoi une opération de police allait se dérouler comment on peut l'appeler ?
C'est une
cité dans la cité.
C'est quelque chose qui pourrait ressembler pour les plus âgés à Christiana, à Copenhague, mais en plus organisé, beaucoup plus organisé, sans toute la dope des années 70. Et le changement de majorité en Grèce, le départ de Tsipras qui a complètement trahi ses engagements, c'était évident qu'il allait se faire jeter. Et c'est évident qu'en se faisant jeter, il ouvrait un nouveau boulevard à la droite grecque. Et c'est tendance népotique, puisqu'en fait, celui qui est maintenant chef du gouvernement, son grand-père était déjà Premier ministre, le père, je ne sais plus ce qu'il faisait, mais voilà quoi, c'est... C'est le retour de Papandréou, parce que lui, c'était le PASOK, le PS grec. Mais c'est pareil, quoi. C'est pareil. Et là, il y a une volonté, effectivement, de reprendre en main fortement le quartier. Ce qui avait déjà été tenté plusieurs fois sous Tsipras, avec peu de succès.
Au fond, qu'est-ce qu'on peut retirer de la légitimité des Gilets jaunes sur ce qui s'est passé par exemple en France? Est-ce que vous avez vous-même une légitimité dans votre action par rapport à ce que vous défendez
Alors là, pour moi, c'est assez clair. C'est tout qui pose une action est légitime à la poser. Alors là, c'est-à-dire que moi, je m'oppose à aucun type d'action. Chacun fait comme il veut. Si je peux t'aider, je t'aide. Si moi, quand je décide d'une action, tu peux m'aider, c'est parfait. Mais je ne suis pas un censeur. Et la notion de légitimité, tout qui vit sur cette planète, là, la légitimité à agir, à vouloir vivre dignement. Et surtout, pas seulement une espèce de volonté molle comme ça, ou un souhait, un vœu pieux, vivre dignement. Non, c'est mettre en œuvre ce qu'il faut pour y arriver, pour soi-même et pour les gens qui sont autour.
Sébastien, à tes yeux, le mouvement Gilets jaunes existe depuis 8 mois, hein, pratiquement, au moins.
Bon, 8 mois, ouais.
Voilà. Et je voulais savoir, est-ce que, à tes yeux, ce mouvement a commencé à élaborer une charpente, une ossature, un squelette sur lequel puisse conjuguer ou s'articuler toutes les légitimités?
Ça a été tenté. Peut-être que Jeannin, qui était présent à la dernière assemblée des assemblées à Monceau-les-Mines, la troisième, après Commercy et Saint-Nazaire, pourrait peut-être nous toucher un mot à propos de cette question.
De la question de l'ossature des Gilets jaunes. comment dire Elle a été tentée. Je pense qu'elle répondait plus ou moins à une demande à la fois des regards extérieurs qui pouvaient être portés sur le mouvement des Gilets jaunes, à la fois la population, à la fois les gouvernements, qui demandaient tout le temps « on ne sait pas à qui parler, organisez-vous, machin, tout ça ». Ça a été des expériences hyper enrichissantes, très fortes, autant sur le plan de la démocratie participative, sur le plan politique, sur le plan de la pensée, sur le plan humain, énormément. Je pense que cette tentative d'ossature, on se confronte à un problème qui est tous les restes d'institutions qu'on a, en fait, tous les restes systémiques, ce fonctionnement où finalement on fait de la bureaucratie et on perd un peu l'essence.
Tu peux donner un exemple concrètement?
Un exemple concret, c'est à la dernière, à Dade, Monceau-les-Mines par exemple, il y a eu à un moment donné un appel, une position très forte, des discours de plusieurs personnes qui avaient élaboré une pensée très claire et très incisive. Il y a eu ce moment où toute la salle a été convaincue à quasi l'unanimité. Il y avait moins d'une dizaine de noms sur une salle de 600 personnes. Et c'était le vote, la position du mouvement qui était qu'il fallait sortir du capitalisme. Ça, c'était très clair. Ça a été un moment de fête, un moment d'euphorie. Enfin, ça a été waouh. Et en fait, à la rédaction de l'appel qui est sorti du mouvement, enfin, de l'Assemblée de Saint-Nazaire, de Monceau-les-Mines, pardon, cette question d'anticapitalisme s'est retrouvée complètement édulcorée par une conscience vague des dangers du système actuel. Dans la rédaction du texte. Et du coup, ça a été un tollé incroyable partout. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est cette volonté de rassembler envers et contre tout, de finalement, je sais pas vraiment le pourquoi de ce qui s'est passé, parce que ce sont quelques personnes qui étaient déléguées à la rédaction de l'appel et qui ont finalement complètement saboté leur mission eux-mêmes, quoi. Et voilà, et du coup on aura peut-être quelques réponses prochainement. En tout cas, l'appel il n'a pas été voté en l'état actuel des choses, puisqu'on n'a pas reçu il n'a pas été voté en l'état actuel des choses, et du coup ça signifie vraiment que, enfin pour moi, que le mouvement, c'est un mouvement d'action, c'est un mouvement comme finalement une ossature, peut-être pas. Peut-être que c'est, il faut peut-être plus parler de ramifications. Peut-être qu'il faut plus parler de toile d'araignée. Peut-être qu'il faut plus parler d'autre chose, en fait. Mais quelque chose de fixe, quelque chose d'immuable, certainement pas. Voilà.
Donc un mouvement en sans cesse mutation. D'après vous, comment peuvent se retrouver justement les sympathisants des gilets jaunes sur on pourrait pas dire quand même un blob, mais quand même.
Je pense qu'en fait c'est peut-être aussi un moment il y a décalage un peu qui s'est fait entre une masse de sympathisants colossale, puisqu'on dépassait les 80%. En gros, c'était toutes les classes, l'intégralité des classes laborieuses qui soutenaient les gilets jaunes. On avait juste les CSP++ et vraiment l'élite qui se démarquait du soutien aux gilets jaunes. Et donc là-dedans, y compris les journalistes et les médias mainstream qui ont désagué tant qu'ils pouvaient le mouvement. Aujourd'hui, si on faisait un sondage, je ne suis pas sûr qu'on atteigne 80%. D'ailleurs, ce soutien passif dont un mouvement a besoin pour exister, pour oser entreprendre ce qu'il fait, ce soutien s'est effrité, il est tombé autour de 50%, ce qui est quand même énorme après 8 mois, de novembre à aujourd'hui encore, hein, de manière plus sporadique, mais encore aujourd'hui, 10 mois, c'est assez impressionnant quand même, le soutien reste. Maintenant, pour ne pas que des gens qui voudraient revenir au mouvement aient la pression d'être en décalage par rapport à l'évolution de ceux qui sont restés dedans, qui ont continué à l'animer, à bouger, je pense que la meilleure manière de faire, c'est d'être dans la rue. C'est tout simplement ne pas rater l'occasion de s'exprimer, que ce soit notamment autour de la question de l'hôpital, a dit. Hein. Là, on a un sujet mais colossal quoi, là-dessus. Colossal. Sur lequel on est en train de se renseigner fortement et en collaboration aussi avec le père de l'enfant décédé. On a une magnifique illustration de l'aberration des politiques publiques décidées depuis une trentaine d'années, quoi, en s'accentuant. C'est quand les gens se sentiront touchés par une mesure, par un élan, et qui se retrouveront dans la rue, bah ils se retrouveront à côté de gens qui sont des militants et pas que des gilets jaunes. Les gilets jaunes, certains d'entre eux sont devenus militants. Ils ne l'avaient jamais été. Ils avaient 45 ans ou 50 ans, 55 ans. Ils n'avaient jamais manifesté de leur vie. Ils n'avaient jamais rien organisé. Ni une réu, les prises de parole, ils savaient pas comment ça fonctionnait. Enfin,
Et toi, Sébastien, comment es-tu arrivé dans ce mouvement ?
Disons que moi j'ai un parcours militant mais qui remonte à plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est arrivé sur le DIWA, on s'est mis en pause parce qu'on a eu bien d'autres problèmes à régler. Et puis quand je parlais tout à l'heure de température du corps social, la température ne me paraît, c'est pas bouillante. Je suis quand même passé à côté des intermittents et de la loi travail. Mais quand j'ai vu le 17 novembre, l'acte 1, j'ai fait ouais, « qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin, j'ai regardé, mais vraiment interloqué par ce que je voyais. Parce que je n'avais pas vu depuis longtemps tellement de spontanéité dans un mouvement de masse, tellement de désordre assumé, de volonté d'y aller. Du coup, je me suis un peu interrogé. Quand l'acte 2 est arrivé, j'ai de nouveau regardé la télé, je me suis mis devant. Et au milieu du reportage, j'ai fait « Ouais, c'est bon. » Je suis descendu, j'ai foutu le gilet jaune dans la voiture. Et il n'a pas fallu longtemps après pour qu'on soit contacté par un copain qui nous a proposé de prendre le rond-point de Die. Et voilà, et moi j'ai trouvé une forme d'expression qui était totalement ce que j'attendais depuis des années aussi. Quoi. Vraiment le mouvement populaire, transversal, où c'est seulement en fait quand le mouvement s'est calmé que les gens ont commencé à retrouver pour certains d'entre eux de vieux réflexes politiques anciens. Quoi. C'est là qu'on a vu se démarquer des gens d'extrême droite revenir un peu plus à leurs fondamentaux, les gens qui venaient d'une mouvance plutôt qu'on pourrait appeler socialisme révolutionnaire, comme LFI, eux aussi revenir à leurs fondamentaux. Alors que quand les gens sont dans l'action, quand ils sont dans la lutte, tout le monde est au combat ensemble. Il n'y a pas de différence, en fait. La différence, elle se fait quand tout à coup, on commence à gamberger, à réfléchir, à parler à des trucs et à vouloir mettre en place des stratégies. Quand on est tout le temps dans la spontanéité, dans l'action, dans le geste, mais en fait, c'est en faisant, quoi. Et c'est en faisant avec les autres. Et qu'ils aient un parcours qui vienne de l'extrême droite, du mouvement anarchiste, ou bien qu'ils aient fait plan-plan la télé sans avoir jamais eu l'idée de voter ou même d'ouvrir un bouquin de politique où c'est pas grave, on est ensemble dans la rue.
Vous pensez que ce mouvement en fait a permis au public en général de s'intéresser un peu plus à la politique qu'avant?
Moi je pense qu'effectivement il y a un vrai climat de lutte sociale qui est en train de s'installer en France depuis plusieurs mois, depuis le début du mouvement, qui a toujours été un petit peu parsemé la vie politique française. Mais là, on se rend compte que les services publics d'urgence et de sécurité des personnes, comme les pompiers, ils sont en grève, ils sont maîtrisés, bâillonnés dans leur grève aussi. On se rend compte que les syndicats commencent à se poser vraiment la question de se dire peut-être il faut qu'on monte un peu au créneau, parce que là effectivement il y a les retraites qui arrivent, tout ça. Je pense qu'il y a la question environnementale qui aussi a très fortement pesé dans la balance des consciences et qui va amener un paquet de noms d'OG7 en l'occurrence. En tout cas, oui, je pense très certainement. Et puis au-delà de ça, il y a les gilets jaunes, il y a aussi la politique de Macron qui doit aider aussi énormément à faire en sorte que les gens prennent conscience de ce que c'est que la vie politique.
Jeannin, à tes yeux, tu peux peut-être nous expliquer ce qu'est à tes yeux la politique de Macron?
C'est assez simple. La politique de Macron, c'est la mise en place de l'asservissement des masses au profit des multinationales, des classes, je parle de classes, d'actionnaires, on pourrait dire ça dans la littérature politique de la grande bourgeoisie, mais enfin, est-ce qu'on peut appeler ça de la bourgeoisie, je ne sais pas. Mais c'est clairement pas une politique qui a pour but de préserver le peuple et les droits des peuples. Clairement, c'est une politique qui est autoritaire, il y a une grosse dérive autoritaire. C'est une politique où il ne se définit pas lui-même, il accuse les autres, il se définit parce qu'il exclut, en fait. Et du coup, ça lui permet de brandir des grands mots de populisme et d'extrême et tout ça, alors que c'est lui l'extrémiste. Pour moi, c'est clair, c'est lui l'extrême, quoi. Et c'est lui le fou furieux, quoi. Enfin, voilà.
C'est le même sentiment pour toi, Sébastien ?
Oui, c'est à peu près la même analyse. Avec Macron, en fait, on a des derniers avatars de ce qui s'est passé durant ces 40 dernières années, où petit à petit, ce qu'on appelle le néolibéralisme, mais qui en fait n'est pas du tout du néolibéralisme, c'est une sorte de loi de la jungle, parce que si on en revenait au texte des vrais néolibéraux, ceux qui ont construit un néolibéralisme en réaction à la crise de 1929, on se rendrait compte qu'on n'y trouve pas, par exemple, la théorie du ruissellement, qui a des trucs chers à Macron. Ça, c'est juste de la connerie. Ça n'existe dans aucun économiste sérieux n'a jamais planché là-dessus. C'est n'importe quoi. Donc il se définit tantôt comme un néolibéral, tantôt comme un libéral, tantôt comme un européen. Voilà, donc quand tu dis Jeannin, il n'y a pas de définition, pas toujours, il a déjà dit quelques fois, ou plutôt il va se définir effectivement par rapport à son projet. Quoi, voilà. Ça c'était une des clés, c'est mon projet. Mais quand on lit le projet, effectivement, asservissement des masses, j'aime beaucoup. Enfin, moi je suis dans une... souvent, pour le moment, dans une réflexion autour de la transmutation des services, des modalités d'exploitation. Et en fait, on trouve une logique depuis l'esclavage, esclavage, servage, salariat, parfois les trois s'entremêlant, hein, suivant les sociétés, les époques, on a pu avoir les trois, mais de toute façon avec un modèle dominant, chaque fois, que ce soit l'esclavage dans l'Antiquité, le servage au Moyen-Âge, tout ça était quand même tâté d'un peu de salariat. Et en fait, la généralisation du salariat, c'est le nouvel esclavage. Et en fait, c'est pas pour faire plaisir aux gens qu'on leur a donné un statut de salarié plutôt que d'esclave ou de serf. C'est parce que le modèle productif exigeait d'autres compétences, une autre organisation sociale, pour produire d'une manière d'abord dans les fabriques, puis de manière semi-industrielle, puis industrielle. On avait besoin d'autre chose qu'une masse d'esclaves ou de serfs. Donc on a élargi le salariat qui existait autour des petits entrepreneurs du Moyen-Âge, hein, les maçons, les potiers, enfin tout ce qu'on veut, les tisserands, qui eux salariaient des gens. Et c'est ce modèle qui s'est élargi, c'est le modèle bourgeois en fait, hein, déjà. Mm-hmm. C'est typiquement, tous ces gens sont des gens qui travaillent dans les villes, donc ce sont des bourgeois. Et puis petit à petit, bah, on est arrivé à un modèle qui nous propose l'ubérisation. C'est la troisième grande mutation de l'esclavage, de l'exploitation d'une grosse couche par une petite. Et là, il commence à y avoir des résistances, effectivement, parce que là, on atteint quand même un peu les limites. Puis on atteint aussi des limites en termes de bassin, de ressources d'emploi. Là, il y a une étude qui est sortie, qui explique que dans les 10 ans qui viennent, ce sont 500 millions d'emplois dans le monde qui vont péter à cause de l'IA et de la robotisation. Mais ces gens-là, ils ne vont pas tous devenir âgés ou techniciens pour réparer les robots. Puisqu'il y a déjà aujourd'hui des usines de robots qui fabriquent des robots. Donc alors, il est temps de s'interroger sur une mutation, encore une, mais à notre avantage cette fois. Parce que là, il est hors de question de se faire bouffer encore une fois.
On peut peut-être espérer que le transhumanisme pourra sauver ce qui reste d'humanité.
Lol, lol, dirais-je. Celle-là, je ne m'attendais pas, elle est bien bonne.
Ah ouais,
alors là, le transhumanisme... Non, alors, si transhumanisme, il y a à un moment ou à un autre, le premier truc à bien comprendre, c'est que, un, des expériences seront menées sur les couches les plus fragiles. Par exemple, les prisonniers, les réfugiés. On peut... imaginez de pucer ces gens-là d'abord et puis de tenter de manipuler leur psyché. Voilà. Mais une fois que la chose sera au point, ce sera un système qui sera réservé à l'élite, celle autour de Jeff Bezos et compagnie qui veulent aller sur Mars. C'est ces gens qui sont assis sur des dizaines, des centaines de millions, des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards. Si le transhumanisme se fait à un moment, ce sera aux dépens de l'immense majorité de la population qui ne sera plus que ce que le groupe de Grenoble, Pièce et Main-d'œuvre, appelle les chimpanzés du futur, c'est-à-dire des gens réduits à rien, qui vivent dans des réserves, parce qu'ils n'ont pas la puce qui dope leur capacité de calcul. Voilà. Et pour ça, il faut de l'énergie. Il faut énormément, ouais, énormément d'énergie et de matières premières. Et là aussi, on est en train de coincer, sérieusement.
Alors, toutes ces préoccupations vous amènent à suivre la caravane de Saint-Nazaire qui se dirigera après Saillant, donc à Biarritz.
Voilà.
Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir?
Ben, disons que le... Ou bien, si j'en avais en parlé, peut-être...
Alors, le G7...
Peut-être par l'invitation des...
Ouais, tout à fait. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Montceau-les-Mines, il y a eu une intervention invitant les Gilets jaunes à intégrer le G7. Et donc, du coup, il y a un village jeune qui nous attend, qui est prévu par les organisations du contre-sommet du G7. Voilà. Et donc, du coup, puisqu'on nous est invité, on y va. Ce serait con de refuser une telle offre. Et voilà. Et qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce qu'on va y découvrir? Enfin, plein de choses. Déjà, on va y découvrir énormément d'associations. Il y a, je crois, plus de 100 mouvements, mouvements politiques, mouvements citoyens, associations qui y sont. Il y a ATTAC, il y a la Ligue de défense des droits de l'homme, il y a la Confédération paysanne. Il y a les Ingénieurs sans frontières, enfin il y a énormément de choses.
Il y a des associations d'origine étrangère aussi qui seront présentes.
Oui, oui. Du coup, il y aura des associations comme ATTAC ou quoi, elles, vu qu'elles sont internationales, elles ramènent du monde de l'international, c'est sûr. On est à la frontière avec l'Espagne, on est à Hendaï, Irune et Urugne. Le G7 se retrouve à Biarritz. Donc du coup, juste pour les dates, le sommet du G7 lui se tiendra du 24 au 26 août à Biarritz. Le contre-sommet se tiendra lui du 19 et jusqu'au 26 août. Du coup, à partir du 19, donc pour situer un petit peu en gros, 19-20 c'est le montage du village, 21-22-23 c'est tout un tas d'événements, d'ateliers, de conférences, d'interventions diverses et variées, de rencontres, de temps de convivialité qui seront installés, qui seront faits dans les trois villes, Irune, Urugne et Hendaï. J'ai un peu du mal, désolé pour l'accent basque les gars. Et voilà, et du coup après le 24, 25 et 26, alors le 24 il y aura une manifestation dont les modalités ne sont pas encore données, et 25 et 26 il y aura des actions dont les modalités n'ont pas encore été données non plus.
Pour ça, vous avez certainement mis en place un petit réseau d'informations sur Internet, par exemple, pour connaître le programme ou les données de ces rencontres.
Et très simplement, vous allez sur alternativeg7.org et là, c'est le site du contre-sommet.
Donc, tout est dit.
Voilà, tout est dit.
Voilà, on revient sur Saillant quand même, puisque c'est plus proche de nous. Donc, ça alternera des conférences dont vous parliez au début de l'émission, des ateliers. Est-ce que parmi les ateliers, vous parliez tout à l'heure un peu des lacunes ou des carences de la politique chez beaucoup d'activistes ou de sympathisants. Est-ce que vous en proposez justement là pendant ce week-end?
Alors, je rectifie quand même un peu, je n'ai pas parlé de carence chez les activistes. J'ai dit que dans les Gilets jaunes, on pouvait trouver des gens dont le parcours politique n'était pas solide et ils étaient en découverte de comment fonctionne le système, quelle est son origine, quels sont les leviers, enfin voilà. Ça, ils l'ont découvert parfois à leurs dépens. Non, alors là, moi personnellement, j'ai encore rien lancé. Je suis en même temps sur un autre projet plus perso à Châtillon. J'ai mon boulot aussi, et qui est saisonnier. Donc, l'idée que j'ai, c'est une fois que ces deux chantiers seront terminés, c'est de pouvoir un peu prendre la route pour justement rencontrer sur les ronds-points, dans les assemblées, les gilets jaunes encore actifs, et leur proposer que je partage avec eux ce que je sais sur l'histoire politique, l'histoire des doctrines économiques et sociales qui ont fait partie de ma formation. Et voilà, j'ai une masse d'infos qui serait bien intéressante parce que ça permet de poser des actions qui ont du sens et qui s'adressent vraiment au cœur du système. C'est-à-dire qu'en fait, au début, les Gilets jaunes, ils ont demandé à Papa État « S'il te plaît, je crois que tu es en train de me marcher sur la gueule, mais tu ne le fais probablement pas exprès. » Est-ce que tu pourrais ta-ta-ta-ta-ta-ta?
Exactement.
Et puis là, ceux qui restent, ils ont compris que Papa État, on ne lui demande rien du tout. Que Papa État en exige, ou on le démonte, ou on menace de le faire. Et qu'à ce moment-là, s'il est sous une pression suffisante, il va lâcher des compensations. Le jeu, il est comme ça, quoi. Moi, je rêve d'aller quand même un peu plus loin. Mais en tout cas, demander, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour optimiser l'exploitation. Donc, il est pas là pour... la fonction redistributrice, elle est en train de crouler. Donc, à Saillant, j'ai rien prévu de particulier. Je voudrais dire un mot quand même sur un des ateliers de Saillant qui, je pensais, à ne pas louper. C'est l'atelier sur la défense numérique. Parce que là, c'est un énorme, mais énorme problème qu'on a pu expérimenter dans le mouvement, c'est la surveillance des télécommunications en tout genre, que ce soit le Facebook, que ce soit les téléphones portables, les ordinateurs. Quand on gratte un peu, on se rend compte à quel point ces machines sont conçues pour espionner leurs utilisateurs et transférer des données d'abord vers des sociétés privées, mais qui ont le devoir en fait de les redispatcher vers les services de renseignement s'ils les demandent. Soyez prudents avec les outils informatiques. Moi-même, je le suis devenu un peu plus. Enfin, j'essaye. Et là, je pense que ça va être un bon moment d'information. Alors moi, je n'ai pas du tout les compétences pour ça. Hein. C'est pas mon domaine. Mais voilà, pensez à la défense numérique.
Et puis, pour ce week-end, vous proposez une cantine populaire. Ça se déroule comment? C'est de l'autogestion? Chacun amène ce qu'il peut?
Alors, il me semble que c'est la cantine de Cré qui est basée au café associatif Lidre, qui s'occupe de ça. Et du coup, ben, y aura une cantine, ce sera très certainement à participation libre, comme ça l'est très souvent à chaque fois, avec une autogestion, ben, de la vaisselle et puis de la bonne ambiance. Quoi.
Il y aura un info-kiosque aussi, hein, on en a souvent dans ce type d'événement. Et puis en spectacle et concert, donc ta vie sera plus moche que la mienne. Qu'est-ce que c'est, du théâtre?
Ça, je ne sais pas. J'aime bien le titre, mais...
Mais c'est le concert de l'idée super, je crois bien, non?
C'est comme ça qu'il l'appelle.
C'est
comme ça qu'il
l'appelle. C'est le titre du spectacle.
Spectacle, ouais.
D'accord.
Super,
et puis, pour toute info, vous pouvez aussi, je parle aux éditeurs, vous renseigner sur le site de Ricochet, je suppose.
Ouais, oui, toutes les infos sont disponibles dessus.
Et la programmation également.
Et la programme, et voilà. Ouais.
Et puis, pour les contacts, il y a également une adresse mail, gjsayans, tout attaché, @riseup.net. Un dernier mot, le collectif René Vautier, quel est-il?
Du coup, c'est le collectif de Saint-Nazaire qui a réalisé le film Il suffira d'un gilet, et qui du coup fait partie de la caravane des gilets jaunes de Saint-Nazaire. Voilà, et qui du coup va animer justement l'atelier de création cinématographique. Voilà.
Sébastien et Jeannin, je vous remercie tous les deux d'être venus nous parler de ce gros week-end de vendredi 9 et samedi 10 août à Saillant, et qui s'intitule « Et maintenant, on fait quoi ?» Oui, Sébastien.
Oui, dernier petit mot, pour ceux que ça intéresse de descendre à Biarritz, il nous reste 2 ou 3 places.
Tout à fait.
Voilà.
Et pour la prise de contact de ces places?
Alors, la
c'est
prise de contact, vous pouvez envoyer un mail sur gilet jaune@riseup.net. Gilet jaune tout attaché, au pluriel, dit attaché avec gilet jaune, @riseup.net.
Voilà.
Et on évalue le coût de l'aller-retour à une centaine d'euros.
Et du coup, juste nous, on part le 16, vu qu'on invite les gens à venir, pour leur dire quand même, nous, on part le 16, on va s'arrêter aux alentours de Montpellier, aux alentours de Toulouse et aux alentours de Mont-de-Marsan. Du coup, on part avec un véhicule qui est un bus. S'il y a des personnes qui ont envie de nous rejoindre avec leur véhicule, ils sont bienvenus. Si jamais il reste plus de place dans le bus, il y a toujours moyen de mettre plus de tentes autour des véhicules.
Sébastien et Jeannin, je vous remercie et bonne soirée.
Merci à toi.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Quand les vieux se font matraquer, vu qu'ils sont plus mous, peut-être ils ont moins mal, mais j'en ai rien à foutre. Les gars qui se retrouvent en tôle aussi vite qu'un tir de flashball, j'en ai rien à foutre. Les politiques arvéreux qui n'iront jamais en tôle, mais non mais eux c'est pas pareil, mais j'en ai rien à foutre. Les foulards rouges sont tellement cons, on a tous cru que c'était de l'humour, j'en ai rien à foutre. Par contre, mes achats de Noël aux Champs-Élysées cette année, c'était compliqué. Ça fait chier. Puis il est 1 an de la mort de Johnny, du coup, ils en ont presque pas parlé. Ça aussi, ça fait chier. Quand les gens, ils disent au gouvernement qu'ils ont la dalle, le gouvernement, il répond, ok, d'accord, on a entendu. On va rétablir les 90 km/h. J'en ai rien à foutre. Et ceux qui sont pas contents, ils peuvent aller se faire cuire un œil. J'en ai rien à foutre. Leur grand débotte mes couilles, qu'en fait c'est juste pour se faire un petit peu de pub. Rien à foutre. On comprend mieux pourquoi en 2017, leur programme il avait l'air un petit peu flou. J'en ai rien à foutre. Y'a eu plein de morts, plein de blessés graves, plein de mutilés à vie. Et le gasoil y'a même pas baissé de 10 centimes. Ça fait chier. Le seul truc bien c'était les péages gratuits, mais maintenant c'est fini. Ça aussi ça fait chier. Pour que les manifs finissent à l'heure, les flics se déguisent en casseurs. Mais j'en ai rien à foutre. Et ça BFM ils ont pas l'air d'être au courant, alors que putain c'est quand même des journalistes professionnels. J'en ai rien à foutre. À chaque fois que les gens ils ont l'air de se calmer, l'autre il trouve toujours une nouvelle connerie à dire pour les énerver. J'en ai rien à foutre. Faut uniquement boxer des pauvres pour mériter sa petite médaille. J'en ai rien à foutre. Pour éviter les dictatures, faut toujours des révolutions. Ça fait chier. Parce qu'après chaque révolution, c'est 50 ans de dictature. Et ça, franchement, c'est chiant.